VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorcil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans moins de 10 minutes, notre programme Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Mais juste avant, voici un résumé des dernières nouvelles du monde. Arrestation d'une vingtaine de djihadistes présumés par les forces de sécurité du Mali. Parmi les 20 personnes arrêtées figurent deux franco-maliens. Les 20 ont été pris à Zégoua, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, puis conduits à Bamako pour interrogatoire, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
C'est sur la base des informations fournies par les services de renseignement maliens que ces hommes ont été appréhendés à la frontière Mali-Côte d'Ivoire, plus précisément dans la localité de Zégoua. Ils s'apprêtaient à prendre des cars pour Bamako afin d'accomplir des missions terroristes. Parmi les 20 personnes arrêtées, il y a deux Français. Ils doivent tous répondre de leurs actes devant les gendarmes maliens. Ces arrestations font suite aux opérations de rastissage que les FAMA ont menées dans la zone frontalière entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour rechercher les djihadistes. Les 20 personnes arrêtées ne sont pas les seuls djihadistes dans la zone qui a été doublement attaquée. D'abord à Misseni dans le cercle de Kadjolo, puis à Fakola dans le cercle de Kolondjeba. Ces attaques plus celles de Nara ont été revendiquées par Ansar Dine du terroriste malien Iyad Agali, qui veut coûte que coûte avoir sa place dans le processus de paix au Mali, même si l'on sait que le HCIA est composé uniquement de ces éléments. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au moins 45 morts dans le nord-est du Nigeria depuis lundi, suite à une série de raids de la milice djihadiste Boko Haram. Selon des témoins, une attaque contre la localité de Mainok lundi soir a coûté la vie à au moins 30 personnes. Les assaillants ont brûlé des centaines d'habitations au point que des cadavres n'ont pas pu être identifiés. Mardi soir, d'autres miliciens ont attaqué le village de Warsala, tuant au moins 15 personnes. Selon l'agence Reuters, la milice djihadiste Boko Haram a effectué aussi un raid contre la ville de Damasek, près de la frontière avec le Niger, et aurait attaqué un autre village dans l'état de Borno. Bilan, au moins 12 morts et la milice aurait incendié les bâtiments. Les coalisés s'étaient retirés de Damasek après avoir repris la localité à Boko Haram en mars dernier. Le président ougandais Yoweri Museveni a quitté les négociations sur la crise burundaise. Son ministre de la Défense doit prendre la relève, nous dit Idriss Fall.
Le chef de l'État ougandais était à Bujumbura pour 24 heures afin de tenter de dénouer la crise. Il a refusé de donner les détails sur les discussions qu'il a entamées hier après-midi avec le camp présidentiel, l'opposition et la société civile. Il a seulement assuré que toutes les parties étaient d'accord pour négocier intensément, sans interruption et promptement pour trouver un accord. Il a ensuite quitté l'hôtel Bel Air où se tiennent les négociations. Son ministre de la Défense, Crispus Kiyonga, doit prendre le relais demain jeudi. Yoweri Museveni a été mandaté par la communauté est-africaine pour dénouer la crise déclenchée par la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat que rejettent l'opposition et la société civile. L'élection présidentielle a été reportée au 21 juillet.
Alors qu'aux Nations Unies, le représentant spécial du secrétaire général pour la République démocratique du Congo, Martin Kobler, a salué hier les avancées récentes en matière de lutte contre les groupes armés. Sur le terrain, une dizaine de civils ont été tués, nous dit Jean-Roger Bian.
Radio Okapi signale qu'au moins 9 civils ont été tués par balle à la machette mardi 14 juillet à Kakuka, un village situé à 90 km au nord-est de Beni, dans la province du Nord Kivu. La radio cite à cet effet Teddy Kataliko, le président de la société civile de ce territoire. L'armée congolaise serait à la poursuite des assaillants, que la société civile croit être les rebelles ougandais des ADF. Les miliciens auraient également brûlé 69 maisons et l'on signale 2 disparus dans cette attaque attribuée donc au ADF. Le porte-parole l'adjoint des opérations militaires, le lieutenant Mike Azuke, a évoqué une incursion des ADF qui aurait profité du redéploiement des nouvelles unités des forces armées de la RDC dans la zone pour commettre ces crimes. La situation est revenue sous contrôle de l'armée, a-t-il dit, toujours cité par Radio Okapi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À l'occasion d'une conférence de presse ici à Washington, conférence de presse qui se poursuit d'ailleurs, le président Barack Obama s'est exprimé aujourd'hui plus longuement sur l'accord historique intervenu entre l'Occident et l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran. Timothée Donangmaï.
Oui, Gabi, la principale chose que le président Barack Obama a tenu à souligner, c'est que sans cet accord historique, le régime de sanctions internationales contre l'Iran allait s'effondrer. Donc, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il avait déjà dit dans une interview avec le New York Times, Barack Obama a réitéré aujourd'hui que l'accord conclu par l'Iran et les puissances mondiales à Vienne empêchera l'Iran de développer une arme nucléaire.
With this deal, if Iran violates its commitments, there will be real consequences.
Avec cet accord, dit le président Barack Obama, si l'Iran viole ses engagements, alors il y aura des conséquences bien réelles. Et le président américain a assuré que cet accord coupe en fait toutes les voies pour que de l'Iran d'accéder un jour à l'arme nucléaire. Et il a souligné qu'il s'attend à ce qu'il y ait un débat vigoureux au Congrès sur cet accord avec l'Iran.
A signalé que les deux chambres du Congrès ont 60 jours pour examiner l'accord intervenu entre Téhéran et le groupe 5+1, après quoi, si elles le veulent, elles pourront voter pour ou contre cet accord. Mais le président Obama a déjà promis d'opposer son veto à toute initiative qui pourrait dérailler ce processus. Et pour surmonter le veto du président, il faudrait une majorité de 2/3. Le président Obama a également déclaré que l'embargo sur les armes contre Téhéran restera en vigueur pendant encore au moins 5 ans en ce qui concerne les États-Unis. Le Fonds monétaire international a demandé une nouvelle fois un fort allègement de la dette de la Grèce par l'Europe alors que l'accord entre Athènes et ses créanciers devait être adopté ce mercredi soir au Parlement grec, mais avec un risque pour le Premier ministre Alexis Tsipras de perdre sa majorité parlementaire. Sa ministre adjointe des Finances Nadia Valavani, également députée du parti au pouvoir, a aujourd'hui même présenté sa démission du gouvernement. Jacques Aristide.
La solution imposée à la Grèce par les créanciers n'est pas viable, d'après la ministre Valavani, qui a donc décidé de quitter le gouvernement pour voter contre le projet de loi. Le vote sur les nouvelles mesures d'austérité, dont une hausse des impôts exigée par l'Union européenne et le FMI, et visant à garantir le maintien de la Grèce dans la zone euro, met à l'épreuve la cohésion du parti Syriza. Au moins 4 députés du parti ont déjà indiqué qu'ils allaient voter contre, selon l'AFP. Ce projet de loi, s'il est adopté, doit permettre au gouvernement grec d'obtenir dans quelques semaines un troisième plan d'aide d'au moins 80 milliards d'euros. Le texte est loin d'alléger l'austérité rejetée par une majorité de Grecs lors d'un référendum le 5 juillet. Au cours d'une interview télévisée mardi soir, le Premier ministre Tsipras a déclaré assumer la responsabilité d'un accord auquel il ne croit pas lui-même, mais qu'il a signé pour éviter un désastre au pays. Pour sa part, le FMI a semé le trouble hier soir en affirmant que la dette grecque est totalement non viable et doit subir une forte cure d'amaigrissement, soit par une longue extension des délais de remboursement, soit préférablement par un allègement pur et simple auquel les Européens sont opposés pour l'heure.
Les autorités ukrainiennes ont fait état de 8 soldats tués et 16 autres blessés hier et aujourd'hui dans les affrontements avec les rebelles pro-russes. C'est le bilan le plus lourd enregistré depuis un mois. Les rebelles pilonnent à l'artillerie des positions gouvernementales le long de la ligne de front près des villes de Svitlodarsk et Horlivka. Selon l'ONU, plus de 6500 personnes ont été tuées dans le conflit ukrainien depuis avril 2014. La Chine a interpellé 20 touristes étrangers, 10 Sud-Africains, 9 Britanniques et un Indien prenant part à un voyage sous l'égide d'une organisation religieuse humanitaire basée en Afrique du Sud. Selon le groupe The Gift of Givers, ils ont été arrêtés à l'aéroport d'Erdos en Mongolie intérieure vendredi. 11 ont été libérés, mais 9 autres restent en prison sans inculpation. On leur reprocherait de regarder des vidéos de propagande. Selon l'agence caritative, ces touristes n'ont aucun lien avec le terrorisme, mais participaient à un périple de 47 jours explorant la Chine ancienne. Et pour finir, la sonde américaine New Horizons, Nouveaux Horizons, a bien frôlé sans encombre la planète naine Pluton mardi aux confins du système solaire au terme d'une odyssée de presque 5 milliards de kilomètres entamée voilà 9 ans et demi. La sonde de la NASA est passée au plus près de Pluton et de ses 5 lunes comme prévu par la trajectoire que lui avait fixée l'agence spatiale américaine. Pluton vient d'avoir son premier visiteur, a déclaré le président Barack Obama sur Twitter. Grâce à la NASA, c'est un grand jour pour l'exploration et pour le leadership américain. Nouvelles du monde, Washington, chez Robin Dorsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.